Bonjour
à vous tous. Dimanche dernier, en sortant du culte, j'avais beaucoup de pensées qui circulaient dans ma tête et j'ai croisé Myriam Nicolet qui était devant le bâtiment, qui jouait avec sa fille Naomi, et je me suis arrêté pour discuter un petit peu avec elle. Et après quelques phrases d'échange, Myriam me dit « Nicolas, je vois que tu es bien préoccupé là. » Elle avait tout à fait raison. Mes pensées étaient ailleurs, je n'étais pas du tout dans la discussion. Et elle le voyait, elle me l'a dit. Et puis elle m'a dit « Nico, t'inquiète pas, je vais prier pour toi. » Et alors qu'on a vécu beaucoup de belles choses pendant notre rassemblement la semaine dernière, c'est vrai que cette petite échange avec Myriam, c'est ce qui m'a touché le plus, c'est ce qui m'a le plus marqué. Et en partant, je me suis dit, j'étais à vélo et je demandais au Seigneur, pourquoi est-ce que ce moment m'a tellement marqué, ce petit échange avec Myriam? Et une pensée qui m'est venue à l'esprit, c'était que Myriam m'a vraiment vu. Elle m'a vu tel que j'étais vraiment. Elle a osé me le dire. « Nico, je vois que tu vas pas très bien là, mais je vais prier pour toi. » Et il y avait quelque chose là-dedans qui m'a vraiment touché. Aujourd'hui, c'est le deuxième volet de notre série dans l'Évangile de Jean. Et voici le titre et puis sous-titre que je voulais donner à ce message. « Voici l'agneau de Dieu. » Voir Jésus, c'est aussi se voir à sa lumière. Voir Jésus, c'est aussi se voir à sa lumière. Et notre texte, c'est la suite de ce qu'on a déjà vu avec Aurélien la semaine dernière, dans les 18 premiers versets de l'Évangile de Jean, ce qu'on appelle parfois le prologue. Et dans son introduction, Aurélien nous a présenté trois accents qu'on verra un peu tout au long de notre étude de l'Évangile de Jean. Voir Jésus, croire en lui et puis être transformé par son Esprit Saint. Et pour ceux qui n'étaient pas là avec nous il y a deux dimanches, je voulais répéter mon encouragement à lire ce petit livre de Roy Hessian. Oui, nous voudrions voir Jésus en parallèle de notre série. C'est un tout petit bouquin que moi j'utilise dans mon culte personnel le matin pour accompagner ma lecture de la Bible. Et je trouve que c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien à mon âme. Et c'est justement une méditation principalement sur l'Évangile de Jean. Donc, il y a des exemplaires à la CLC pour ceux qui ne savent pas où, sur Internet, Amazon et tout ça. Et justement, le mot « voir », c'est un des mots-clés de notre passage pour aujourd'hui. Pour ceux qui aimeraient vous préparer, notre texte se trouve en Jean chapitre 1, donc c'est la page 687 dans la Bible blanche. Et dans la pensée de Jean, le mot « voir », on verra, est souvent associé à l'idée de côtoyer ou d'apprendre à connaître. Un autre mot que Jean va employer, on l'a déjà vu la semaine dernière avec Aurèle, c'était le mot « contempler ». C'est quasiment un mot qui est quasiment synonyme du mot « voir » dans la pensée de Jean, avec aussi l'idée de regarder de près, d'examiner, afin de mieux connaître, afin de mieux comprendre. C'est un peu comme mon fils Wesley qui découvre un petit papillon de nuit. Et il regarde ce papillon de tous les côtés. Il veut le prendre dans les mains. Il va peut-être même renifler pour voir s'il y a une odeur. Il va le laisser envoler pour voir, en fait, ses ailes. Et après, il va vouloir aller sur YouTube pour regarder quelques vidéos qui parlent des papillons de nuit. Et à la fin de cette expérience, on va savoir tout ce qu'on pourrait savoir sur les papillons de nuit. C'est même possible qu'on ait un peu plus d'affection dans nos cœurs pour les papillons de nuit grâce à notre connaissance. Et c'est un peu ça, la notion de contempler. Fait de voir, de vraiment voir quelque chose ou de vraiment voir quelqu'un tel qu'il est, tel qu'elle est, vraiment. Puis un autre mot-clé qu'on verra dans l'Évangile de Jean, et c'est le mot « vérité ». Encore une fois, un mot qu'on a vu avec Aurèle la semaine dernière. La parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et connaître la vérité dans l'évangile de Jean, c'est justement voir Jésus tel qu'il est vraiment. C'est ça, la connaissance de la vérité. C'est voir Jésus tel qu'il est vraiment. Et il y a un deuxième aspect, c'est aussi nous voir tel que nous sommes vraiment. Ce que nous verrons aujourd'hui et dans les semaines qui viennent, c'est que notre capacité de voir Jésus tel qu'il est vraiment commence souvent avec le fait d'être vu par Jésus, tel qu'on est vraiment. Quand Jésus me voit tel que je suis, peut-être une idée qui peut nous faire peur, et quand j'accueille sa vision de la personne que je suis vraiment, ce qui me révèle concernant ma vraie nature, eh bien cette vision-là va m'aider à voir Jésus de manière plus claire. Mais nous verrons aussi, dans la suite de notre texte, un peu plus tard dans l'évangile de Jean, ce ne sera pas le cas aujourd'hui, que certains refusent d'être vus par Jésus, de se laisser découvrir, dévoiler par lui. Ces personnes rejettent la vérité que Jésus révèle à leur sujet. Et de telles personnes, selon Jean, préfèrent les ténèbres. Elles refusent d'accueillir la lumière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre de ces personnes se cachent derrière le voile d'une grande connaissance biblique ou d'une grande connaissance théologique ou derrière un rideau de rigueur religieuse. Et ce passage et ces personnes nous serviront d'avertissement, nous les membres de l'église Grenoble-Est en particulier, parce que l'église Grenoble-Est, c'est une église qui prend la Bible, les Écritures, la théologie, la formation vraiment au sérieux. Pourquoi? Parce que c'est hyper important, toutes ces choses. Mais la question que Jean va nous encourager à nous poser en tant qu'église est celle-ci. Dans toutes nos études et toute notre formation, toute notre lecture, toutes nos discussions, est-ce que nous accueillons la vérité? Est-ce que nous accueillons la révélation de la personne que Jésus est vraiment? Est-ce que nous accueillons la révélation de la personne que je suis vraiment? Ou est-ce que je me cache? Peut-être même derrière un voile de connaissances bibliques. Donc je vais prier pour nous, puis après on va regarder ce texte ensemble. Quel privilège, Seigneur, encore une fois, de pouvoir se retrouver ensemble entre frères et sœurs et peut-être aussi avec des invités qui ne te connaissent pas encore. Ils sont les bienvenus. Notre désir, Seigneur, c'est encore une fois de te voir, d'avoir des yeux qui voient ta lumière. Et justement, nous reconnaissons encore une fois notre dépendance de toi pour cela. Nous invitons ton Esprit Saint à enlever tout ce qui nous empêcherait d'écouter ce que tu veux nous dire à travers ce passage, de voir Jésus mieux, de plus en plus, comme il est vraiment. Enlève aussi notre peur d'être découvert, d'être vu. Comme on est vraiment, on a envie de se cacher. Mais Seigneur, quand tu nous enlèves le voile et tu nous montres qui on est vraiment et on découvre ton amour pour nous, eh bien ça transforme notre rapport avec la vérité et aussi avec la lumière pour qu'on n'ait plus peur. Et je prie que ce soit le cas pour chacun de nous. Au nom de Jésus, amen. Eh bien, pour simplifier notre discussion de ce texte qui est assez grand, bon, c'est versets 19 à 51, on va juste se concentrer sur deux points. J'appelle le premier point, et les deux sont des déclarations. Première déclaration, voici l'agneau de Dieu, c'est Jean-Baptiste qui le dit. Et puis deuxième déclaration, viens et vois, c'est un homme qui s'appelle Philippe qui le dit. Et on va commencer avec voici l'agneau de Dieu. Et là, je vous invite à reprendre la lecture avec moi. Là, on est en Jean chapitre 1 et je vais juste lire versets 19 et 20 pour commencer. Donc, Jean 1, 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu ?» Il déclara et sans restriction affirma, « Moi, je ne suis pas le Messie. » Et cette réponse résume un peu l'essentiel de notre texte, en fait. On pourrait s'arrêter là. Même Camille dit, « Ok, Nico, on peut passer à autre chose. » Et c'est vrai. L'essentiel de ce texte, en fait, cette partie de notre passage, c'est pour dire, « Jean-Baptiste, il n'est pas le Messie. » Et il le sait très bien. C'est intéressant parce que le mot « témoignage » qu'on découvre ici, justement dans ces versets qui font écho à quelques autres versets qu'on a vus la semaine dernière, je voulais juste les reprendre aussi. Verset 6 de chapitre 1, dont vous tournez peut-être, non, vous êtes, je pense, sur la même page si vous êtes dans la Bible blanche. Verset 6, « Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. » Et c'est vrai que ce mot « témoignage », c'est un autre mot vraiment clé dans l'évangile de Jean. De cet homme qu'on appelle parfois l'évangéliste, je ne sais pas si vous avez entendu cette expression pour Jean, Jean l'évangéliste, pour faire la distinction avec Jean-Baptiste, il y a deux Jean ici. L'évangile de Jean qui n'est pas écrit par Jean-Baptiste, au cas où vous vous posez la question. Donc moi, je vais faire référence à Jean l'évangéliste pour faire la distinction avec Jean-Baptiste. Un témoin, dans la perspective de Jean, c'est quelqu'un qui raconte à quelqu'un d'autre ou un groupe ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu, ce qu'il a vécu, peut-être ce qu'il a touché avec ses propres mains. Et en verset 19, nous lisons que des chefs religieux sont envoyés de Jérusalem pour interroger Jean-Baptiste quant à son identité. Et c'est ça qui pose le fondement, qui ouvre la porte à son témoignage. Et donc, on pose la question de différentes manières. Verset 19, « Toi, qui es-tu ? » Verset 21, « Qui es-tu donc ? » Verset 22, « Qui es-tu ? » Et puis verset 23, « Que dis-tu de toi-même ? » Toutes ces questions donnent l'impression que ceux qui interrogent Jean ne sont pas très contents de sa réponse. Et voici deux aspects de sa réponse. Il répond de deux manières. D'abord, on l'a déjà entendu en verset 20, il dit « Je ne suis pas le Messie !» Parce que tout le monde se pose la question. Est-ce que c'est peut-être toi ? Non, ce n'est pas moi. Et puis ensuite, en verset 23, il cite un passage du prophète Ésaïe, un prophète de l'Ancien Testament, chapitre 40, et il dit, « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit. » Et là, je vous invite à vous servir de vos imaginations pendant quelques instants. Imaginez petit Jean-Baptiste, qui a l'âge peut-être de Wesley, Théo, de ce groupe ici qui était devant ce matin, 9, 10, peut-être 12 ans, et commence à se poser la question, qu'est-ce que je vais faire quand je serai grand ? Puis imaginez ses parents, qui ont vécu des expériences extraordinaires, qu'on ne découvre pas ici en Jean, mais plutôt dans l'évangile de Luc, si ça vous intéresse. Dans les premiers chapitres de l'évangile de Luc, on voit les expériences des parents de Jean-Baptiste, des expériences qui confirment, qui révèlent et confirment l'identité de ce petit enfant, Jean, qui est appelé par Dieu. Même avant de naître, il était identifié comme celui qui préparerait le chemin du Seigneur. On peut imaginer son papa Zacharie qui ouvre sa Bible au prophète Ésaïe et il lit les premiers versets de chapitre 40. Je cherche à imaginer le jour, il dit à son fils. Mon fils, ces versets parlent de toi. De toi, précisément. Tu es la personne dans l'histoire du monde qui sera l'accomplissement de cette prophétie. Quelque chose d'extraordinaire. C'est toi qui seras l'instrument de Dieu pour préparer le chemin de son Messie. Non, non, ce n'est pas toi le Messie. Je peux imaginer si c'est Wes, il dit, non, non, moi j'ai envie d'être le Messie, moi. Est-ce qu'on ne peut pas échanger de rôle ? Non, non, ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas toi le Messie. Il y a quelqu'un d'autre, on ne sait pas qui. Mais tu vas préparer le chemin. Et ce message qui revient et qui revient peut-être au cours des années de sa vie. C'est pas toi le Messie, c'est toi qui prépares le chemin pour quelqu'un d'autre. Et donc, quand il arrive à l'âge d'adulte et commence son ministère, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il y a de foules de personnes qui se déplacent pour venir voir Jean dans le désert, écouter son enseignement. Il y a certaines personnes qui vont devenir même ses disciples. Et bien, à ce moment-là, Jean ne se dit pas, peut-être, c'est moi le Messie. Il serait tenté peut-être, mais il ne le dit pas. Peut-être c'est moi la solution au problème d'Israël. Peut-être c'est moi le bon berger qui va ramener ce peuple de brebis égaré à son Dieu. Regarde, toutes ces personnes, peut-être c'est moi. Non, Jean sait très bien quelle est son identité. Quel est son rôle? Il sait que son ministère prépare le terrain pour un autre. Et en attendant l'apparence de l'autre dont il est question, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Eh bien, il baptise. Il baptise. Et alors que Jean l'Évangéliste ne nous dit pas grand-chose concernant l'objectif du baptême de Jean-Baptiste, les autres évangiles et aussi le livre des Actes nous donnent un petit aperçu. De quoi il s'agit? Ils nous disent qu'il s'agit d'un baptême de repentance, un symbole puissant, visuel, tactile, une expérience à vivre, une expérience d'humiliation pour ceux qui étaient prêts à confesser leurs fautes, reconnaître leurs péchés, déclarer publiquement leur incapacité de se sauver soi-même. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, quand il voit Jésus en verset 29, il dit « Voici l'agneau de Dieu. » C'est lui qui enlève le péché du monde. Et pour ceux qui ne connaissent pas très bien le mot péché, c'est un mot qui décrit tout simplement tout ce qui nous sépare de Dieu, tout ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu, tout ce qui nous éloigne de lui. Eh bien, c'est Jésus qui vient pour enlever ce qui nous sépare de Dieu. Et avec cette déclaration, Jean-Baptiste nous dévoile un aspect essentiel de l'identité de Jésus. Il est venu pour offrir son propre corps comme un agneau sacrificiel pour enlever le péché du monde, pour déchirer le voile qui nous sépare de Dieu et pour donner le droit, comme on a vu avec Aurélien, de devenir les enfants de Dieu. Quelque chose d'extraordinaire. C'est lui, l'agneau de Dieu, dit Jean, qui vous baptisera non pas d'eau, non pas de manière symbolique, mais du Saint-Esprit. Et ce baptême-là, c'est ce qui sera nécessaire pour que vos vies soient transformées. Ce baptême-là que Jésus va appeler en chapitre 3, on verra ça dans quelques semaines, une nouvelle naissance. Le fait de naître de nouveau, c'est ce baptême qui ouvre la porte à une nouvelle relation avec votre Dieu, avec notre Dieu. Deux questions alors, avant de passer au deuxième et dernier point pour aujourd'hui. Jean-Baptiste savait très bien qui il était, grâce aux Écritures. C'est pratique. Il y a des versets précis qui parlent de lui. Ses parents savaient que ces versets parlaient de lui. Mais nous alors, on peut se poser la question aussi, est-ce que je sais ce que les Écritures disent concernant mon identité? La réalité, c'est que la Bible nous révèle tout un tas de choses concernant ce que Dieu avait en tête pour nous, même avant qu'on naisse. Ce à quoi nous sommes appelés en Jésus-Christ, on a tout un tas d'infos là. Est-ce que vous savez quelle est votre identité sur la base des Écritures? Quand quelqu'un te pose la question, et toi, qui es-tu? Comment est-ce que tu réponds? Et d'où vient l'info, le data pour ta réponse? Donc ça, c'est une première question. À quel point est-ce que tu te laisses former dans ta vision de ton identité par les Écritures? Ou est-ce qu'il y a d'autres influences qui te disent, qui vous disent qui vous êtes et quel impact ont ces influences sur vos vies. Une deuxième question, est-ce que ta vie rend témoignage à l'agneau de Dieu? Question intéressante. Est-ce que ta vie est comme ça? Une main qui oriente les regards, pas vers moi, mais vers l'autre, pour préparer le chemin du Seigneur. Est-ce que tu es convaincu comme Jean-Baptiste, tu fais que eh ben, ceux dont le monde a vraiment besoin, ce n'est pas toi, je suis désolé, ce n'est pas toi Nicolas. Je ne suis pas le Messie, non, c'est lui, Jésus. Et je dois avouer, mes amis, que ce n'est pas facile. C'est facile pour moi de le dire. Mais ce n'est pas facile à vivre ce que Jean-Baptiste va dire à ses disciples plus tard, en chapitre 3, quand les disciples verront que Jésus commence à baptiser aussi. Donc on voit un peu de concurrence. Et les disciples de Jean reviendront vers lui pour dire, « Est-ce que tu as vu ce que fait Jésus ?» Lui aussi, il baptise. Il y a encore plus de personnes qui vont vers lui que tu es en train de perdre ton réseau là. Ton influence. Vous vous souvenez de ce que Jean dit à ce moment-là? Eh bien, il faut que lui, il grandisse et moi, je diminue. Il faut qu'il prenne la place centrale et que moi, je me retrouve à l'ombre maintenant. J'ai fait mon job. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de reconnaître que je ne suis pas moi-même la source de la lumière. Que la lumière ne vient pas de moi, que je ne fais que refléter la lumière d'un autre qui est, selon Jean-Baptiste, beaucoup plus important que moi. Et alors que je veux que les autres me voient comme quelqu'un d'important, comme quelqu'un de lumineux, comme quelqu'un qui peut les aider, qui peut faire une différence dans leur vie, la réponse de Jean-Baptiste à la question posée « Qui es-tu donc ?» ça doit être ma réponse aussi. Qui es-tu? Est-ce possible que tu sois le sauveur qu'on attendait? Est-ce toi qui va nous délivrer de notre situation de difficulté? Est-ce toi qui va répondre à nos besoins? Il faut que notre réponse soit claire. Non, 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 c'est pas moi. Il y a un autre. Voici l'agneau de Dieu. Je vais juste prier et puis on passe au deuxième point. J'exprime ces idées assez rapidement parce qu'il y a peu de temps, Seigneur, mais je reconnais à quel point ce que je dis, ça touche mon cœur, parce que j'ai envie d'être le sauveur, si je dis la vérité. J'ai envie d'être le Messie. Je veux que les gens viennent à moi pour trouver des solutions. Je peux facilement parler de Jésus, m'identifier comme un disciple de Christ, un enfant de Dieu, et quand même dans certains contextes me présenter comme celui qui peut tout faire, qui a toutes les bonnes réponses. Pardonne-moi Seigneur, et je reconnais que je ne suis pas seul dans cette pièce à vouloir prendre la place du seul Messie. Et je te remercie pour le modèle de Jean-Baptiste qui n'a pas oublié son rôle, son identité, et qui était fidèle et qui a bien préparé le chemin pour le Seigneur. Que ce soit le cas pour nous aussi, Seigneur. En ton nom. Amen. Ok, un deuxième point. Viens et vois. C'est vrai que la suite de notre texte nous présente deux exemples de personnes qui suivent le modèle de Jean-Baptiste. Deux bons exemples. Le premier, c'est un disciple de Jean-Baptiste qui s'appelle André. Et là, je vous invite à regarder le verset 35 avec moi. Je reprends et je vais lire un petit morceau là. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples l'entendent dire prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître », « Où habites-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils y allèrent, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui correspond à Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Je ne sais pas si vous avez jamais fait l'expérience de rencontrer un de vos héros dans la vie. Bon, peut-être vous n'avez pas trop de héros. Mais, ou même d'imaginer vous retrouver en face de quelqu'un que vous respectez énormément, que ce soit un athlète, ou un movie star, ou peut-être un musicien. Dans mon cas, et ça va peut-être faire rigoler les membres de ma famille, j'ai un héros qui s'appelle Andrew Peterson. C'est un musicien, écrivain, une personne extraordinaire, que je suis depuis des années. Je chante les chants qu'il compose à mes enfants depuis qu'ils étaient petits. Et j'imagine parfois ce que je vivrais si jamais je rencontre Andrew Peterson en face à face. Et rien que cette pensée-là, même maintenant, je sens le cœur qui commence à... Et les mains qui commencent à transpirer un petit peu. Et je cherche à imaginer qu'est-ce que je dirais à ce moment-là, quand je me retrouve devant lui. Et je suis sûr, mais je suis sûr, que ce qui sortira de ma bouche sera juste n'importe quoi. Ce sera idiot. Voilà. J'étais... Juste, en fait, bon, je ne raconte pas toute l'histoire. J'ai failli rencontrer, j'avais trop peur. On était dans un concert de Andrew Peterson pendant qu'on était aux États-Unis. En tout cas, ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a ces deux gars qui suivent Jésus. Vous pouvez imaginer la scène. Hein? En fait, c'est lui l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste vient de dire, en gros, c'est lui le Messie. Et ils sont derrière, on ne sait pas quelle distance. Et à un moment donné, Jésus fait comme ça. Et je vous invite juste à vous mettre dans les baskets de ces deux gars. Et il dit, mais que cherchez-vous, quoi? Où habitez-vous? C'est une réponse un peu bizarre. Eh bien, viens, on verra ensemble, quoi. Donc, c'est marrant, mais c'est incroyable, la douceur de Jésus. C'est aussi intéressant, ces deux phrases qui sortent de sa bouche, les deux premières phrases qu'on entend de la bouche de Jésus dans l'évangile de Jean. Que cherchez-vous? Et puis, venez, voyez. Comme Jean fait souvent, il y a souvent des doubles sens, en fait. Et ces phrases sont vraiment lourdes de sens. Qu'est-ce que vous cherchez? Qui est-ce que vous cherchez? Eh bien, venez et voyez. En verset 40, Jean, l'évangéliste, précise, pour pas qu'on ne passe à côté de ce détail, que André a décidé de suivre Jésus sur la base du témoignage de Jean-Baptiste. Je ne sais pas si vous avez reconnu cette petite répétition dans le texte, mais il ne veut pas qu'on rate le fait que si André suit Jésus maintenant, c'est sur la base de ce que Jean-Baptiste disait. C'est grâce à son témoignage. Et maintenant, verset 41, c'est André qui témoigne à son frère. Simon, nous avons trouvé le Messie. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il conduit son frère Simon vers Jésus. Ça, je trouve assez rassurant. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais on est plusieurs dans cette assemblée qui ont vraiment peur de témoigner. Voilà pourquoi on est content pour ce petit week-end, le témoignage pour les nuls. On se retrouve là-dedans, mais j'espère que vous serez vraiment rassurés par la démarche d'André ici. Qu'est-ce qu'il fait? Viens voir! Viens avec moi! Il n'a même pas grand-chose à dire. Il ne sait pas comment expliquer. Tout ce qu'il peut faire, c'est prendre son frère presque par la main. Il dit, viens avec moi et on verra. Et c'est le point de départ du témoignage. Et on voit la même dynamique de témoignage répétée avec Philippe qui répond à l'appel de Jésus en verset 43. Quand Jésus dit, suis-moi. Puis il témoigne à son ami Nathanaël qui est... Pour ceux qui se posent la question, c'est qui ce gars? C'est probablement un homme qui s'appelle Bartholomée. Et on trouve dans la liste, par exemple, en Luc chapitre 6, la liste de disciples, ce nom juste à côté du nom de Philippe. Il y a plusieurs qui disent que c'est probablement un autre nom pour un des disciples de Jésus. En tout cas, il dit à son ami Nathanaël, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. » Donc c'est une réponse un peu plus théologique. Témoignage un peu plus investi. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et alors que Nathanaël vient lui-même du nord, donc de la région de la Galilée, c'est quand même intéressant. C'est une région qui est méprisée par la plupart des Juifs, surtout les Juifs du sud, ceux qui habitent le plus proche de la ville sainte, Jérusalem. C'est intéressant parce que lui-même, il est de Galilée, de la Galilée, mais il a lui-même du mépris dans son cœur pour les Galiléens, qui viennent d'une ville qui s'appelle Nazareth. Vous avez vu sa réponse là dans le texte? Il y a quoi de bon qui peut sortir de cette ville-là? Et ça me fait penser un peu à une ville aux États-Unis. Il y a un État aux États-Unis qui s'appelle New Jersey, qui est vu par la plupart des autres États un peu comme... comment est-ce qu'on dit ça en français? Le? Ah ouais, c'est un mot bizarre, je ne connaissais pas ce mot. Des États-Unis, en fait. On a beaucoup de mépris pour New Jersey, mais qui vient de là-bas? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que même les résidents de New Jersey, on se met mépris pour ceux qui viennent de la ville de Camden, à New Jersey. Donc, Camden, c'est une ville connue pour la pauvreté, pour la criminalité. Donc, c'est un peu comme si il y a Nathanaël qui vient de New Jersey et c'est Jésus qui vient de Camden et il dit, il y a quoi de bon qui peut sortir de Camden, quoi? Alors qu'il est lui-même de New Jersey. C'est ça la situation ici avec Nathanaël. Et c'est quoi la réponse de Philippe? Viens et vois. C'est ça son témoignage. Puis regardez cet échange extraordinaire qui conclut notre passage. Et là, je reprends la lecture en verset 47. Où Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. » Qu'est-ce qui explique le changement extraordinaire dans la perspective de Nathanaël ici? Et la réponse est deux phrases. Deux phrases qui sortent de la bouche de Jésus et qui montrent que Jésus connaît Nathanaël très bien. C'est exactement comme il fait avec Simon en verset 42. Jésus regarde Nathanaël et il le voit. Et ce qui sort de sa bouche révèle une connaissance, on va dire surnaturelle. Il connaît quelque chose que personne ne sait concernant Nathanaël. Ce petit détail sous le figuier, je t'ai vu sous le figuier, c'est quand même fascinant. Et ce qui est un peu frustrant, c'est que Jean, l'évangéliste, ne nous explique pas le sens. Mais qu'est-ce qui s'est passé sous le figuier? Et on peut imaginer plein de possibilités. Mais ce qui est clair, c'est que Jésus sait ce qui s'est passé sous le figuier. Nathanaël sait ce qui s'est passé sous le figuier. Et c'est possible et même probable que personne d'autre ne sait ce qui s'est passé sous le figuier. Et quand Jésus prononce ces deux phrases, Nathanaël dit, « Toi, tu es quelqu'un d'extraordinaire, si tu sais ça. » C'est quand même intéressant. Je vous pose la question à vous. Si Jésus était devant vous, et avec juste deux phrases, il voulait te dire, je te connais hyper bien. Qu'est-ce qu'il dirait? La réalité, c'est que ce qui te vient à l'esprit là, il le sait. Il l'a vu. Il te connaît comme ça. Ce qui est incroyable, c'est qu'on ressent l'amour et l'affection que Jésus a pour ce Nathanaël. Et Nathanaël, c'est comme si presque il tombe par terre. Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. C'est intéressant les différentes manières dont le Seigneur, en fait, il nous fait savoir qu'il nous voit et il nous connaît. J'ai parlé avec Annie tout à l'heure, juste d'un moment cette semaine où elle était très, très découragée. Et juste dans sa lecture, biblique de tous les jours, il y avait un verset qui parlait, mais précisément, de ce qu'elle, elle était en train de vivre. Et c'était juste un de ces petits moments où elle sentait que, Seigneur, tu me vois là, là où je suis, tu me connais et tu m'aimes. Bon, ça t'impressionne que je te dise que je t'ai vu sous le figuier, dit Jésus en gros à Nathanaël, suite à sa réponse. Eh bien, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et puis en verset 51, Jésus va décrire une vision que nous, on a vue il n'y a pas si longtemps que ça, en Genèse chapitre 28, la vision d'un homme qui s'appelle Jacob, d'une échelle qui lie le ciel et la terre, avec des anges qui montent et qui descendent, qui suggèrent qu'il y a un passage qui passe entre la terre et le ciel. Et dans la vision, ce qui est intéressant en Genèse chapitre 28, l'échelle touche la terre là où se situe Jacob. C'est comme si l'échelle monte de lui, en fait. Et le lien se fait entre le ciel et lui. Il y a cette échelle. Alors là, Jésus change l'image. C'est vrai qu'à l'époque de Jacob, le message était que Dieu voulait ouvrir une porte pour toutes les nations de la terre, pour qu'il y ait une vraie communion avec lui et qu'il allait faire ça à travers la descendance de cet homme Jacob, du peuple d'Israël. Mais là, Jésus va rajouter quelques détails, il va être même plus précis. Ce n'est pas juste le peuple d'Israël dans son ensemble, c'est quelqu'un. Et c'est moi. Cette échelle, cette porte qui s'ouvre pour qu'on soit en communion, la terre avec le ciel et le ciel avec la terre. C'est moi l'accomplissement de cette vision de Jacob. C'est lui, Jésus, le vrai Israël, l'agneau de Dieu qui par son sacrifice ouvrira enfin la porte à une relation entre le ciel et la terre, entre Dieu et tous ceux qui croient. Tous ceux qui, comme André et Simon, comme Philippe et Nathanaël, accueillent le témoignage de Jean-Baptiste qui dit « Voici l'agneau de Dieu ». Donc, quelques mots de conclusion. Au cours de cette série, nous allons revenir régulièrement aux trois accents qu'Aurélien a introduit la semaine dernière. Voir Jésus, croire en lui, être transformé par son esprit. Et c'est intéressant de noter que croire en Jésus, c'est au moins en partie accueillir sa lumière. Ce que lui, il veut te révéler concernant sa vraie nature et aussi concernant ta vraie nature, qui tu es vraiment. Et dans les semaines qui viennent, nous allons rencontrer deux types de personnes dans l'entourage de Jésus. Ceux qui accueillent sa lumière, même si elle révèle des choses qui sont difficiles à voir ou à entendre. On verra ça par exemple en chapitre 4 avec la femme samaritaine. Et puis ceux qui rejettent sa lumière, ceux qui préfèrent rester dans les ténèbres, garder ma propre vision de moi-même, me cacher peut-être derrière un voile pour que les autres, peut-être même pour que Dieu, ne me voie pas comme je suis vraiment. Et ma question pour nous aujourd'hui, c'est ben, où est-ce qu'on se situe par rapport à tout ça? Ces deux types de réponses à la lumière de Christ. Est-ce que je suis prêt à accueillir sa vision de moi, à me laisser voir par celui qui me connaît mieux que tout le monde? Ou est-ce que je vais insister? Je vais rester derrière ce rideau. J'aimerais aussi nous encourager que le fait que témoigner n'est finalement peut-être pas si difficile que ça. Viens et voir. Viens voir ce que j'ai vécu. Viens voir un homme qui m'a raconté ma vie. Viens voir l'agneau de Dieu. Viens voir le roi d'Israël. C'est possible que certains d'entre vous qui sont là aujourd'hui, vous vous rendez compte en écoutant ce message du fait que ben, vous ne comprenez pas grand-chose de ce que je suis en train de dire. Et ce n'est pas grave, c'était pareil pour André, pour Simon, pour Philippe, pour Nathanaël. Il fallait commencer quelque part, avec un tout petit peu de lumière. Peut-être que c'est comme ça pour vous aujourd'hui. Et je vous invite à revenir voir dans les semaines qui viennent. À suivre avec nous cet évangile de Jean qui va dévoiler pour nous progressivement la lumière du monde, l'agneau de Dieu. J'aimerais suggérer que cette révélation-là risque de transformer vos vies. Je vais prier pour conclure et je m'arrêterai là. Je te remercie, Seigneur, pour ce texte et pour ces modèles, justement, de personnes qui ont décidé d'accueillir ta lumière. Et qui ont choisi d'exposer d'autres à cette même lumière. Je te demande de nous aider, Seigneur, à être nous-mêmes des témoins. Et à identifier peut-être dans nos entourages, peut-être se poser la question, qui est mon Simon? Peut-être un membre de ma famille qui ne te connaît pas encore. Que je peux inviter à venir te voir, te découvrir. Qui est mon Nathanaël? Un ami? Un collègue, un autre membre de mon entourage qui est dans la même situation et que je peux inviter à venir voir, à découvrir ce Messie, ce Sauveur du monde. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour qu'on voie ces personnes autour de nous et donne-nous du courage pour faire l'invitation, tout simple. Et puis, je prie pour ceux qui sont là, qui ne te connaissent pas encore, peut-être qui sont conscients du fait d'être dans les ténèbres. Je ne sais pas très bien qui je suis vraiment. Je ne sais pas très bien qui est Jésus vraiment. Je prie, Seigneur, que tu donnes du courage à ces personnes aussi. Répondre à cette invitation, à venir voir, semaine après semaine, ce que tu veux nous révéler dans cet évangile de Jean. Au nom de Jésus. Amen.